En janvier 1968, une vendeuse d'encyclopédies de 19 ans, Linda Slauson, sonne à la porte d'une petite famille de Portland, dans l'Oregon. Un homme à première vue aimable l'invite à entrer, mais il ne la laissera jamais repartir. Alors que ses enfants jouent à l'étage, le patriarche étrangle Linda jusqu'à ce que mort s'en suive, avant de lui couper le pied et de balancer son corps dans une rivière du coin.
Il a mis son pied dans un congélateur et il s'amusait à lui enfiler différentes chaussures.
Ce meurtrier détraqué s'appelle Jerry Brudos, électricien de quartier. L'homme de 28 ans a tout l'air d'un bon père de famille droit dans ses bottes. Pourtant, son foyer renferme un terrible secret.
L'histoire est invraisemblable. C'est un homme qui capturait des femmes alors que son épouse et leurs deux enfants étaient présents dans la maison. Pendant qu'elle lui cuisinait un bon repas, il torturait des femmes dans son garage.
Brudos tue 4 jeunes femmes, faisant preuve d'une cruauté inhumaine. Il mutile leurs cadavres pour son propre plaisir sadique.
Brudos agit dans un seul but, satisfaire ses pulsions et fantasmes les plus extrêmes. C'est l'une des caractéristiques qui le transformera en un meurtrier retors et monstrueux.
Les désirs pervers de Jerry Brudos remontent à la surface, faisant de lui l'un des pires criminels au monde. En juin 1969, Jerry Brudos écope de 3 peines similaires. Il est condamné à la prison à perpétuité. En l'espace de 15 mois, il a capturé, violé, tué et découpé les cadavres de 4 jeunes femmes de l'Oregon. Ce trentenaire n'a jamais réprimé son étrange fascination pour les chaussures à talons hauts. Rod Englert est un expert de la police scientifique. Il a vu de ses propres yeux la fameuse salle d'exécution et s'est entretenu avec ce tueur fou.
J'ai discuté avec lui pour comprendre comment son esprit fonctionnait. À quoi pensait-il lorsqu'il sélectionnait sa prochaine victime? Parfois, il roulait pendant des heures à la recherche d'une femme qui correspondrait à l'image de la victime parfaite qu'il avait en tête et qui marcherait devant lui. Elle devait avoir un signe distinctif. Quelle était la caractéristique qui l'intéressait? Pour lui, c'était les talons hauts.
Lars Larson, journaliste et animateur d'émissions radio à Portland, a également interviewé Brudos en prison.
Toutes ces femmes que Brudos tuait étaient ordinaires. Elles auraient très bien pu être nos épouses, nos mères, nos sœurs, nos filles. Et elles se volatilisaient comme par magie. Ils ne recherchaient pas un profil en particulier. Et cela terrifiait la population. Qui sait, l'une des membres de leur famille serait peut-être sa prochaine victime.
Malgré ses 35 années d'incarcération, Brudos ne montrera jamais aucun signe de repentir pour les ignobles crimes qu'il a commis.
On lui a demandé, « Jerry, si on te laissait sortir, est-ce que tu te tiendrais tranquille ?» Son regard était vide. Il se contentait d'hocher la tête. Il n'a rien dit. Il recommencerait.
Il n'avait pas l'air d'avoir une conscience. Il n'avait pas de remords non plus. On parlait clairement avec l'incarnation du mal.
L'histoire de ce tueur en série commence à Webster, dans le Dakota du Sud. Jerome Brudos naît le 31 janvier 1939. Fils cadet de ses parents Henry et Eileen, le petit Jerry ne grandit pas dans les meilleures conditions.
Sa mère Eileen était plutôt stoïque et elle montrait sa préférence pour son fils aîné, Larry. Je pense que cette absence, ce manque affectif, va profondément marquer l'enfance de Jerry. Il a une mère très froide, un père complètement désintéressé. Brudos devient vite le vilain petit canard de cette famille.
Sa famille n'aimait pas habiter longtemps au même endroit. Brudos n'a jamais eu l'occasion de développer une relation stable avec les autres, alors que c'est essentiel pour la construction de notre identité.
Brudos découvre très jeune l'objet de son fétichisme, qui tournera à l'obsession.
À 5 ans, Jerry Brudos avait le droit d'aller où il voulait et de faire ce qu'il voulait sans surveillance. Un jour, alors qu'il se baladait dans une décharge, il trouve une assez belle paire de chaussures à talons hauts pailletés. Il est tout de suite fasciné en les voyant, parce que sa mère s'habillait de façon très austère. Il ne la voyait pas porter ce genre de chaussures. Donc c'était nouveau et intrigant pour lui.
Il est tout excité par sa découverte. Et il décide de les emporter. Mais ça ne plaît pas du tout à sa mère coincée. Elle les confisque et les brûle. Pour moi, c'est vraiment ce geste qui est à la genèse du fétichisme de Jerry Brudos pour les chaussures. Ce moment précis va littéralement changer le restant de sa vie.
Sa famille s'installe dans l'Oregon au début des années 1950. Brudos, maintenant adolescent, s'enfonce dans sa fascination glauque pour les chaussures de femmes.
Son obsession pour les chaussures féminines s'étend maintenant aux sous-vêtements féminins. Il commence à voler leurs culottes et leurs soutiens-gorge pour les porter et jouer avec. Je pense que ces objets lui procuraient un certain réconfort et une excitation sexuelle. Il ne comprenait pas vraiment ses sentiments et il voulait les explorer à l'époque.
Brudos collectionnait les chaussures à talons hauts et les sous-vêtements. Il les volait sur les cordes à linge de différents quartiers. Il voyait ça comme un défi. Il n'était pas intéressé par le sexe, mais par le pouvoir. Il voulait voir jusqu'où il pouvait aller.
La prochaine idée tordue de Brudos consiste à photographier une jeune fille nue. À l'âge de 17 ans, il attire une voisine jusque chez lui. Une fois à l'intérieur, il la menace avec un couteau.
Il lui ordonne de se déshabiller, elle s'exécute et il la prend en photo. Je pense qu'à ce moment-là, il n'avait pas songé à faire autre chose que la photographier. Mais il a compris qu'il pouvait contrôler les femmes. Il sait qu'il peut les emmener à faire ce qu'il leur dit de faire. Cette prise de conscience devient très dangereuse.
La jeune fille ne prévient pas la police de cet incident, ce qui incite Brudos à recommencer. 8 mois plus tard, ses attaques se font plus graves.
Il persuade une adolescente de 17 ans de monter dans sa voiture sous prétexte qu'il va la déposer chez elle. C'est un mensonge. Il l'emmène plutôt dans un endroit reculé et se met à la frapper, à la rouer de coups, parce qu'elle a refusé de se déshabiller pour le laisser la prendre en photo.
Il fantasme de plus en plus sur le contrôle qu'il exerce sur les femmes. Jusqu'ici, il a réussi à obtenir ce qu'il voulait d'elle. Entendre un refus de la part d'une femme le prend au dépourvu et lui déplaît. C'est pourquoi sa violente réaction ne me surprend pas du tout.
Cette fois-ci, Brudos n'échappe pas aux conséquences. Un couple a entendu les bruits de lutte et a prévenu la police. Brudos évite une peine de prison. À la place, il est envoyé à l'Oregon State Hospital, un hôpital psychiatrique, pour s'y faire évaluer au printemps 1956.
Les conclusions de cette évaluation indiquent qu'il souffrait d'une déviance sexuelle, avec fétichisme. Ce n'est pas un adolescent sain d'esprit. Le rapport suggère également qu'il aurait des tendances schizophrènes.
À l'époque, les médecins ont mentionné qu'il ne devrait pas être remis en liberté. Il avait une personnalité de sociopathe. Trop dangereuse.
Il ne s'agit plus d'un simple fantasme. On a affaire à la naissance d'un véritable prédateur sexuel. C'est un démon qui s'apprête à sortir de son cocon.
Brudos passe ses journées sur les bancs de l'école et ses nuits à l'hôpital. Malgré les rapports qui soulignent la dangerosité d'une réhabilitation, l'adolescent de 17 ans sort en décembre 1956, au bout de 9 mois seulement.
Une fois diplômé, Brudos rejoint brièvement l'armée, mais il devient vite un électricien qui s'occupe des installations électriques.
En 1963, l'homme de 24 ans travaille pour une station de radio locale à Corvallis, dans l'Oregon. C'est là qu'il rencontre sa future épouse, une adolescente de 17 ans appelée Darcy.
Ils se mettent en couple, se marient et ont un premier enfant. Mais Brudos n'a pas changé pour autant. Il demande à Darcy de s'occuper des tâches ménagères en étant toute nue, en ne portant qu'une paire de talons hauts ou en sous-vêtements.
C'est un élément caractéristique des relations abusives, le contrôle par la coercition. Cette femme, bien plus jeune que lui, est sous son emprise. Lorsqu'il lui ordonne de se balader toute nue dans la maison ou de porter de la lingerie, elle le fait, parce qu'elle est complètement influencée par tous ses désirs pervers.
En 1967, leur famille s'agrandit avec la naissance d'un deuxième enfant. Et Darcy refuse désormais de s'habiller selon les directives de son mari. Jerry Brudos va devoir trouver un autre moyen de satisfaire ses lubies.
Une nuit de mai 1967, il entre par effraction dans la chambre d'une femme qu'il suivait depuis un moment. Il a l'intention de voler une de ses culottes. Mais elle se réveille et le surprend. Mal lui en a pris. Il l'attaque et la viole avant de s'enfuir. Il a réellement perdu le contrôle de lui-même. Sous ses airs de courageux père de famille, il est rongé par ses désirs charnels, ses fantasmes pervers et son envie de blesser des femmes.
En avril 1969, la police de l'État d'Oregon est à la recherche de quatre jeunes femmes, toutes disparues sur une période de 15 mois. La dernière en date est Linda Sally, une secrétaire encore étudiante. Becky New n'avait que 10 ans lorsque sa grande sœur a été enlevée.
Elle avait 22 ans et elle était comme une seconde mère. Elle me gardait, elle m'emmenait au cinéma voir Mary Poppins, ce genre de choses. Bien sûr, on se disputait aussi. Je n'étais pas toujours facile à vivre, mais elle s'occupait bien de moi.
Le 23 avril 1969, Linda se rend dans un centre commercial de Portland.
Le dernier jour où je l'ai vue, ma sœur Linda allait au Lloyd Center pour acheter un cadeau à son petit ami et fiancé. C'est la seule chose dont je me souviens. Elle n'est jamais rentrée.
Linda Sally n'est jamais arrivée à la fête d'anniversaire de son petit ami. Elle ne s'est pas présentée non plus à son poste le lendemain. Inquiets, ses parents appellent la police.
À ce qu'on m'a dit, ils ont appelé la police dès que possible. La nuit même, j'ai rêvé qu'elle était dans une prairie. Et elle était heureuse. Et j'ai refait ce rêve des dizaines de fois. C'était si bizarre. Elle s'était volatilisée.
Linda est la quatrième fille à disparaître dans les environs de Portland en un an seulement.
Les gens étaient probablement terrifiés parce qu'ils savaient qu'un individu enlevait des jeunes filles en pleine rue plutôt que des femmes qui se baladaient tard la nuit dans des endroits déserts ou des femmes mêlées à des histoires qui pouvaient se retourner contre elles. Les disparues étaient des filles du coin qui vaquaient à leurs occupations.
Le 10 mai 1969, 17 jours après la disparition de Linda, deux pêcheurs font une tragique découverte dans la rivière Long Tom et préviennent la police.
On a entendu qu'ils avaient repêché un corps dans la rivière. C'était la première fois qu'on avait des nouvelles et on s'est demandé si ça pouvait être elle. Et c'était le cas.
La police l'ignore encore, mais le meurtrier de Linda s'appelle Jerry Brudos. Il a 30 ans et exerce dans le quartier en tant qu'électricien. Le 23 avril, Linda Sally quitte le centre commercial Lloyd Center, les bras chargés de cadeaux, pour les déposer dans sa voiture. Brudos accoste la jeune fille de 22 ans en se faisant passer pour un agent de sécurité. Il l'accuse de vol à l'étalage, la fait entrer dans son véhicule et l'emmène avec lui.
Brudos l'emmène dans son garage, autrement dit son terrain de jeu, mais il ne tue pas immédiatement Linda. Il la garde quelques heures et monte dîner avec sa famille avant de revenir et de l'étrangler.
Il est capable de distinguer ses deux identités, de passer de meurtrier à patriarche bien rangé, de manger son repas avant d'y retourner. Ça nous paraît difficile à comprendre parce qu'on se sent coupable dès lors qu'on blesse quelqu'un physiquement ou mentalement. Mais ce n'est pas le cas de Brudos. Il n'a pas cette conscience ni cette empathie. Il peut très bien compartimenter la double vie qu'il mène. Ses actions sont effrayantes et difficiles à appréhender pour nous, mais pas pour lui.
Depuis plus d'un an, Brudos enlève des femmes pour les tuer. Linda Sally devient sa quatrième victime.
D'abord, il l'a ligotée et l'a gardée en vie quelques heures, ce qui lui a permis de chercher à s'échapper en défaisant ses liens. Elle y était presque parvenue lorsqu'il est retourné dans le garage et l'a vue faire. Elle s'est débattue de toutes ses forces, mais ça n'a pas suffi. Elle n'était pas très grande, alors qu'il mesurait 1m80. Les chances n'étaient pas de son côté. Elle ne s'est pas laissée faire, elle a tout essayé. Mais elle n'a pas réussi. Si seulement.
Brudos étrangle Linda avec la lanière d'un sac postal et la viole alors qu'elle est mourante. L'homme de 30 ans, fétichiste des pieds, ne renonce devant rien pour nourrir son vice.
Elle a croisé son chemin, il a vu ses chaussures et il a voulu la posséder tout entière. À chaque fois, il ne suffisait que de ça.
L'autopsie du corps de Linda révèle un autre détail troublant. Le tueur ne s'est pas contenté de l'étrangler. Il l'a également utilisé pour une petite expérience.
Après l'avoir tuée, il viole son corps d'une toute autre façon. Il enfonce des seringues hypodermiques entre ses côtes et y attache des nœuds électriques pour essayer de ranimer son cadavre. Bien entendu, ça ne fonctionne pas, son circuit ne fait que lui brûler la peau. Mais son geste m'apparaît comme la preuve que Brudos est un prédateur qui cherche constamment à améliorer et peaufiner ses techniques d'agression. C'est devenu un homme extrêmement dangereux.
Cinquante ans après le meurtre de Linda, sa famille souffre toujours.
Ma mère, elle ne s'en est jamais remise. Jamais. Parfois, elle m'appelait Linda par erreur. Elle lui manquait terriblement. Je ne peux pas en parler longtemps sans me mettre à pleurer, même après tout ce temps. Il m'a enlevé ma sœur. Je n'en ai plus. C'est un sentiment terrible, atroce.
Jerry Brudos entre dans sa folie meurtrière 15 mois auparavant, en janvier 1968. Lorsqu'une vendeuse d'encyclopédie arrive sur le perron de son ancienne demeure de Portland.
Linda Slauson frappe à la porte de Jerry Brudos. Elle tombe sur une scène de vie banale. Sa mère est présente, ses enfants sont aussi à la maison, sa femme Darcy est au travail. Et voilà qu'une jeune femme de 19 ans lui est servie sur un plateau. Jerry Brudos n'en revient pas, c'est l'occasion parfaite.
Brudos feint de s'intéresser aux encyclopédies et l'invite à entrer. Puis il conduit Linda jusqu'à la cave.
Linda a probablement dû penser que tout ceci était très bizarre. Mais elle n'a pas eu le temps de réagir avant qu'il la frappe à la tête avec une planche. Elle s'est évanouie immédiatement. Brudos l'étrangle. Rappelez-vous qu'il peut entendre les pas de ses enfants qui jouent à l'étage. Il vient d'étrangler une femme qu'il n'a jamais rencontrée dans la cave de la maison familiale.
Brudos passe des heures à changer les vêtements de Linda et à lui enfiler différentes tenues. Vers 2 heures du matin, il réalise qu'il va devoir se débarrasser du corps, mais il souhaite tout de même garder un souvenir de son premier meurtre. Obsédé par les chaussures, il décide de lui scier le pied.
S'il ne pouvait pas garder le corps, il voulait au moins garder le pied et le conserver dans un congélateur. Le possédé lui permettait de revivre son fantasme sexuel, de voir une chaussure sur un pied féminin. N'importe qui d'autre serait horrifié de voir un pied sauvagement démembré. Mais Jerry Brudos le voyait comme un objet de désir sexuel qu'il parvenait à contrôler. Parce que ce membre ne pourrait pas lui résister.
Brudos attache le reste du corps de Linda à une pièce de moteur et la jette dans la rivière Willamette. 10 mois plus tard, il trouve une deuxième victime. En novembre 1968, Brudos dépasse un véhicule en panne. Jeanne Whitney, 22 ans, était en route pour l'Université d'Oregon, 3 jours avant Thanksgiving.
Il lui propose de venir avec lui. Il va aller récupérer ses outils chez lui, puis il retournera réparer sa voiture et elle pourra repartir sans problème. Jerry Brudos a l'air d'un homme plutôt normal, donc Jeanne ne s'est pas inquiétée de sa proposition. Il n'avait pas un crochet à la place de la main, des griffes ou un masque terrifiant. C'était un monsieur tout le monde qu'on croiserait dans la rue.
Elle a grimpé dans la voiture, il est monté à l'arrière et il est parvenu à lui passer une lanière autour du cou, dont il a coincé les deux extrémités dans la portière arrière. Il l'a ramené chez lui jusque dans son garage. Et là, il lui a fait l'amour. C'était un nécrophile. Il aimait coucher avec les morts.
On dirait un chat qui s'amuse avec une souris morte. C'est ce qu'il fait avec le corps de cette pauvre dame.
Brudos laisse Jeanne Whitney pendre dans le garage de sa nouvelle maison à Salem, dans l'Oregon, pendant des jours. Il change régulièrement les tenues qu'il lui fait porter et joue avec son cadavre.
Sa soudaine folie meurtrière paraît tout droit sortie d'un roman. Comment pouvait-elle deviner qu'il lui voudrait du mal? Elle ne faisait que conduire jusqu'à l'université d'Oregon. Elle ne s'attendait pas à tomber sur un inconnu qui allait l'étrangler dès qu'elle s'assiérait dans la voiture. Mais ce n'était pas Jeanne qui intéressait Brudos. Ce n'était que son corps. Il ne voulait que l'enveloppe.
Brudos retire la poitrine de Jeanne avant de l'attacher à un poids et de la jeter dans la rivière Willamette. Son corps ne sera découvert qu'en juillet 1969, 8 mois après sa mort. Le meurtrier se débarrasse ensuite de la voiture de Jeanne.
Il ne va pas laisser cette voiture abandonnée sur le bord de la route. Une fois qu'il en a terminé avec elle, il retourne sur ses pas et conduit la voiture jusqu'à une station-service. Personne ne va venir la chercher là-bas. Il la verrouille et repart pour couvrir ses arrières.
Jerry Brudos a ôté la vie de 2 femmes en à peine 10 mois. Mais son attrait pour les talons hauts et le crime est loin de se finir. Ce fétichiste des pieds a tué Linda Slauson et Jeanne Whitney en 1968. Et il est prêt à recommencer en mars 1969.
Il rencontre une jeune femme de 19 ans, Karen Springer, dans un parking de l'Université d'Oregon. Cette fois-ci, il la kidnappe sous la menace d'un pistolet. Il la tient en joue et l'oblige à monter dans la voiture.
Brudos détient Karen dans le garage, dans sa maison de Salem, où vivent son épouse et ses 2 enfants. Il viole l'étudiante, puis se saisit de son appareil photo.
Il possède des photos qu'il a prises, où on la voit nue dans son garage. L'expression de son visage donne l'impression qu'elle y consent, mais elle est en réalité paralysée par la peur. Elle sait qu'elle est en danger, et le meurtrier m'a dit qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter qu'il lui tire dessus. C'est une supplique.
Brudos lui passe la corde au cou et tire jusqu'à ce que Karen meure d'asphyxie. Il ne s'arrête pas avant d'avoir pleinement profité de sa lutte désespérée.
Il avait un crochet de forme ronde et recourbé vissé au plafond. Il pouvait passer un câble au travers, comme ça. Il pouvait le laisser pendre de l'autre côté. Il a enroulé ce câble autour de sa gorge avant de le tendre au fur et à mesure. À chaque fois, il lui demandait « Ça va comme ça? Tu as mal? Ça te fait mal ?» Il adorait entendre le bruit que faisaient ses talons. En se débattant, elle les tapait contre le mur derrière elle. Ça le faisait sourire quand il m'en parlait. Il voit ces femmes comme des accessoires. Elles sont un morceau de chewing-gum qu'il peut jeter une fois qu'il s'est lassé.
Violer le corps inanimé de Karen ne lui suffit pas. Brudos poursuit ses expériences macabres.
Il a méticuleusement découpé la poitrine de Karen Sprinker et la coupe pour s'en servir comme moule. Les tueurs en série dans son genre aiment garder des souvenirs. Ce n'est pas par intérêt sexuel qu'il fait ça, mais par besoin de revivre la scène à travers un souvenir, la revivre jusqu'à sa prochaine victime.
Il a perdu tout contrôle de soi. Il ne pense plus qu'à réaliser tous ses fantasmes les plus sombres. Il mutile une jeune femme qu'il a enlevée et tuée. Et il se sert de son corps comme d'un jouet. Je pense qu'on ne peut pas faire pire en matière de dépravation.
Après avoir éliminé Karen Sprinker, Brudos ne patiente pas longtemps avant de se remettre en chasse. Le 21 avril 1969, Sharon Wood, une secrétaire de 24 ans, rejoint son entreprise comme tous les lundis matins.
Ça s'est passé un beau jour de printemps, comme on peut en avoir en avril à Portland. Un des rares jours où on pouvait sortir sans veste. J'ai déposé mes enfants chez la nounou, puis je me suis rendue au travail et j'ai fait ma journée. Quand j'ai voulu repartir, impossible de retrouver mes clés. J'ai demandé à mon étudiant en alternance, Alex, s'il pouvait m'attendre le temps que je cours jusqu'au garage et que je vérifie si je ne les avais pas laissées dans ma voiture.
Non seulement Sharon a oublié ses clés de voiture, mais elle ne se rappelle plus l'endroit où elle s'est garée.
Je traverse le parking sans vraiment savoir où je vais, parce que j'ai oublié à quel niveau j'avais garé ma voiture. Je fais des allers-retours, je me dis « je suis en bas ». Non, je suis en haut. Oh non, je suis en bas, ou alors en haut. Je me retourne. Et soudain, je me rends compte qu'il y a quelqu'un derrière moi qui se déplace exactement comme moi. Je ne le vois pas, mais je sens sa présence dans mon dos. Puis, je sens qu'on me tapote l'épaule. Je me souviens qu'il m'a dit « Madame ?» Puis il a ajouté « Vous aussi ?» Comme s'il était aussi perdu que moi. Je me suis mise à courir. Je voulais rejoindre la lumière du jour. Mais il a brandi un pistolet et l'a pointé sur moi en me disant que si je me taisais, il m'épargnerait.
Sharon ignore ses ordres. Son instinct lui crie de tenir tête à gérer Brudos.
Je me suis mise à hurler. J'ai reculé. Il s'est jeté sur moi et il a passé un bras autour de mon cou. Dans la confusion, il m'a mis son pouce dans la bouche et je l'ai mordu de toutes mes forces. Je n'ai pas compris sur le moment, mais je suis entrée dans un état de paralysie par la peur. Ma mâchoire s'est bloquée. Je ne pouvais pas la desserrer. Il me dominait de toute sa taille. Je dis toujours que c'était une armoire à glace. Il me faisait peur, mais je n'arrivais pas à arrêter de le mordre. Il a essayé de me faire lâcher prise, on tournait dans tous les sens.
Sharon et Brudos se débattent férocement. Mais ils sont surpris par les phares d'une voiture qui démarre non loin d'eux.
Il m'a attrapé par les cheveux. Ils étaient très longs à l'époque. Puis il m'a tiré en arrière et s'est mis à me cogner la tête contre le sol jusqu'à ce que j'ouvre la bouche. Je n'y arrivais pas toute seule. Tout à coup, c'était fini. Il s'est relevé et s'est enfui en me laissant étourdie au sol. Il est retourné chercher son pistolet. Je me suis dit, oh non, il est revenu pour me tirer dessus.
La jeune femme de 24 ans est chanceuse. Brudos se contente de ramasser son arme et de s'enfuir. Sharon reste étendue, complètement sonnée.
J'avais l'impression d'avoir survécu à un tsunami. Tout s'est terminé en quelques secondes. Je n'avais aucune idée de ce qui venait de se passer. J'ai pensé que j'étais morte et j'étais inconsolable. Je croyais que je n'allais jamais revoir mes enfants. Vous savez, on n'a pas vraiment le temps de comprendre ce qui nous arrive. C'est comme si on jetait une allumette sur une flaque de kérosène, tout s'enflamme en une seconde, et c'est à toi de te battre pour vivre. Je n'étais concentrée que sur ma survie.
Deux jours seulement après avoir agressé Sharon Wood, Jerry Brudos assassine sa quatrième victime, Linda Sally. L'électricien a perfectionné ses méthodes pour cacher un corps. Il l'attache à de lourdes pièces mécaniques avant de le jeter dans les rivières des environs.
Il semble privilégier cette manière de faire parce qu'il sait qu'en jetant un corps dans une rivière, il peut le maintenir sous l'eau pendant un certain temps. Pas indéfiniment, mais assez longtemps pour qu'il reste très difficile à trouver sur une longue période.
Le 12 mai 1969, soit 48 heures après la découverte de Linda Sally, des plongeurs en quête de preuves trouvent le corps de Karen Sprinker dans la rivière Long Tom. Les enquêteurs décident d'interroger les étudiants résidant au Callahan Hall, dans l'université de l'Oregon, là où vivait Karen. Le hasard veut que Jerry Brudos change justement de modus operandi au même moment.
À cette époque, Brudos devient extrêmement audacieux et confiant dans son approche. Il se met à téléphoner au dortoir d'une université locale en demandant à parler à une femme dont il invente le nom. Ça lui donne une excuse pour discuter avec d'autres jeunes filles. Et lorsqu'il les a au bout du fil, il peut ainsi leur proposer de se rencontrer.
Une étudiante accepte d'aller boire un verre en sa compagnie. Mais elle se rappellera de cette sortie avec horreur.
Une fois qu'il roule avec elle dans la voiture, il lui demande « Comment savais-tu que je n'allais pas te tuer et jeter ton corps dans la rivière ?» Sa question l'a vraiment prise au dépourvu. Il arrive que l'on nous pose cette question « Comment savais-tu que tu pouvais me faire confiance ?» Mais sa question à lui était très précise. Je pense que c'est cette précision qui l'a poussé à contacter la police.
La jeune fille lui propose un deuxième rendez-vous qu'il accepte. Lorsque Brudos s'y rend, c'est la police qui l'attend. Les enquêteurs s'entretiennent avec le trentenaire. Ils n'ont pas encore de raison de l'arrêter, mais ils décident de le surveiller de près. Armés d'une photo de Brudos, les enquêteurs contactent toutes les jeunes femmes qui se sont fait agresser dans la région de Portland ces 15 derniers mois. L'une d'entre elles est une victime de 24 ans, Sharon Wood.
Ils se sont rendus chez ma mère avec une sorte de photo d'identité judiciaire. Je feuilletais leur classeur de suspects et je suis tombée sur sa photo. J'ai pu l'identifier.
Sharon n'est pas la seule à identifier Brudos. Une adolescente de 15 ans le reconnaît également. Elle a été attaquée le 22 avril 1969, le lendemain de l'agression de Sharon et la veille du meurtre de Linda Sally.
Il était facilement reconnaissable. Il était blond avec une coupe courte. Il avait des yeux bleus très clairs, assez petits, avec de lourdes paupières. Mais c'était aussi un gars banal. Il était électricien, il était marié et avait deux enfants. Qui aurait pu s'en douter?
Le 30 mai 1969, les enquêteurs décident d'arrêter Jerry Brudos. Toutefois, lorsqu'ils viennent le chercher au domicile d'un ami à Corvallis, dans l'Oregon, il a disparu avec toute sa famille. Les policiers veulent l'embarquer pour agression, mais ils sont persuadés qu'il est responsable d'au moins deux meurtres. Ceux de Karen Sprinker et de Linda Sally, dont les corps ont été repêchés dans la rivière Long Tom.
Tout d'abord, elles étaient toutes attachées de la même façon. Ensuite, elles étaient toujours liées à une pièce mécanique. Enfin, il y avait des stigmates d'expérience qui nous ont fait remonter jusqu'à la maison de Brudos. Tous ces indices nous prouvaient que c'était la même personne derrière tout ça. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était comme des empreintes, une forme de signature de l'œuvre d'un seul individu.
Quand la police intercepte enfin la voiture de Brudos, sa femme Darcy est au volant, accompagné par ses deux enfants à l'avant. Le tueur de 30 ans se cache en réalité sous un drap sur la banquette arrière. Les enquêteurs interrogent Brudos pendant 3 jours, avant qu'il avoue avoir tué 3 femmes dans l'atelier de sa propre maison, et une dernière dans la cave de son ancienne demeure. Il raconte tout, dans ses détails les plus crus.
Le 3 juin 1969, Brudos avoue ses meurtres. Honnêtement, il n'aurait pas pu faire autrement. Il savait qu'il serait inculpé à l'instant où la police fouillerait sa maison et son garage.
Il avoue tout parce qu'il est fier de ce qu'il a fait. Il a causé tous ces meurtres, toutes ces blessures, tous ces traumatismes, et il veut qu'on les lui attribue. Mais il ne faut pas le croire aveuglément non plus parce qu'il raconte sa version de l'histoire, celle qu'il veut répandre. Tout ne sera pas entièrement vrai. Et nous ne connaîtrons jamais tous les détails de ce que ces femmes ont enduré, car il ne raconte que ce qu'il choisit.
Au cours de ses aveux, Brudos confie également avoir essayé d'enlever Sharon Wood et une adolescente de 15 ans. Les enquêteurs font une perquisition.
Pendant sa garde à vue, nous avons trouvé certains objets compromettants chez lui, comme les clés de voiture et d'appartement de Whitney. Comment était-il entré en possession d'un objet appartenant à une inconnue qu'il n'avait pas côtoyée, qu'il n'avait jamais vue?
La clé de voiture déverrouille celle de Jeanne Whitney, abandonnée par Brudos après son meurtre il y a 7 mois. Les enquêteurs fouillent également l'atelier du trentenaire, la pièce de son domicile de Salem, qu'il a transformée en salle d'exécution.
Nous avons trouvé de nombreuses photos tombées derrière son bureau, parce qu'il essayait de tout cacher. Sur l'une d'entre elles, on a vu une belle jeune femme entièrement nue. C'était Karen Sprinker. Elle était très jolie. Elle avait de longs cheveux, une mince silhouette, et elle portait des chaussures à talons. Elle prenait la pose, mais son regard était vide.
La police déniche des piles de culottes féminines et découvre au grenier 40 paires de chaussures à talons hauts. Parmi les photos trouvées dans son garage, l'une d'entre elles révèle le visage glaçant du tueur.
Il a regardé dans un miroir et il s'est aperçu qu'il pouvait y voir le reflet de l'entrejambe et de l'appareil reproducteur de Karen. Alors, il l'a pris en photo, sans penser que son visage aussi s'y reflétait. On découvre donc le visage de Jerry Brudos. Et cette photo est une preuve irréfutable.
Je pense que Jerry Brudos a pris ces photos parce qu'elles l'excitaient. Torturer des femmes lui faisait cet effet. Et il voulait revivre ces instants bien après avoir camouflé ses meurtres. Il devait se résoudre à se débarrasser des membres et des restes de cadavres. Mais ces photos lui permettaient de revenir en arrière et de revivre ces moments où il torturait ces jeunes filles.
En juin 1969, Jerry Brudos est assigné à comparaître pour les meurtres de Jeanne Whitney, Karen Sprinker et Linda Sally. Malgré ses aveux, la police ne possède pas assez de preuves pour l'accuser du meurtre de sa première victime, Linda Slauson. Personne n'a jamais trouvé son corps.
Brudos a d'abord plaidé son innocence en prétendant être fou. Je pense qu'il a fait preuve d'une réflexion assez sophistiquée. D'une certaine manière, il comprend sa propre démence et ses perversions. Il sait que le reste du monde va entendre parler de ses victimes et penser qu'il est complètement barge. Pour moi, il tente de s'en sortir du mieux qu'il peut.
Mais quelques temps plus tard, il change de version et plaide coupable. Parce qu'il y a trop de preuves qui jouent en sa défaveur. Il n'a pas vraiment le choix.
Le 27 juin 1969, Jerry Brudos est condamné 3 fois à la perpétuité. Il ne pourra jamais sortir de prison. 23 ans plus tard, en 1992, l'animateur radio Lars Larsson reçoit l'opportunité d'interviewer le meurtrier de 53 ans.
Ils nous ont installés dans une petite pièce avec une table qui servait de bureau de réserve. Ils m'ont dit « Allez-y, faites votre interview ». Je me suis retrouvé face à lui pendant un peu plus de 2 heures. C'était très impressionnant et dérangeant.
Lars trouve Brudos à la fois ordinaire et extrêmement insensible.
Ce n'est pas le genre de personne qu'on remarquerait si on le croisait dans la rue. Il a un visage assez rond, il est plutôt grand et bien bâti. C'est un gars avec un physique impressionnant, mais il passe tout de même inaperçu. Il n'a rien de remarquable. Il n'a pas vraiment de signes distinctifs. Mais son comportement était très décalé. Il riait à des moments complètement inappropriés. Il nous racontait comment il avait tué, démembré et balancé des corps de jeunes femmes attachés à un poids dans une rivière pour les laisser pourrir. Et quand il racontait tout ça, il en rigolait.
Il adore discuter de ses affaires. Mais il est assez intelligent pour nous cacher des cas dont il ne voulait pas parler, qui étaient peut-être trop graves. Si vous voulez mon avis, je n'ai aucune preuve pour avancer qu'il en a tué d'autres, mais je sais qu'il a essayé et qu'il a probablement réussi.
Par deux fois, en 1977 et 1999, Brudos demande une liberté conditionnelle qu'on lui refuse, au grand soulagement des familles qu'il a détruites.
J'ai commencé à me révolter en grandissant. J'étais au collège quand des prisonniers du centre de détention de l'État d'Oregon sont venus nous parler. Je leur ai demandé s'ils connaissaient Jerry Brudos. Ils m'ont répondu « Oui, pourquoi ?» J'ai dit « Il a tué ma sœur. » Dites-lui qu'il ne sortira jamais vivant de prison. C'est sorti tout seul. Je ne pouvais plus me retenir. J'ai pensé que je n'allais probablement jamais lui en parler en face. Alors j'ai passé un message. Je parle de mon cas pour toucher le plus de monde possible, parce que j'espère prévenir les gens de toujours faire attention à leur environnement quand ils sont seuls. Cette histoire m'attriste toujours. J'ai de la peine pour ces parents qui ne deviendront jamais des grands-parents. J'ai 11 petits-enfants et un arrière-petit-fils, et les familles de ces jeunes femmes ne vivront jamais cette expérience. Il les en a privés.
Jerry Brudos devient le détenu purgeant la plus longue peine de l'État d'Oregon. Il passe 37 années en prison avant de mourir d'un cancer du foie en mars 2006 à l'âge de 67 ans. Ceux qui ont eu l'opportunité de lui parler n'ont vu aucun espoir de rédemption.
J'ai demandé à Brudos s'il avait des remords pour ses crimes, mais c'était comme parler à un mur. Il ne les considérait pas comme des êtres humains.
Brudos détestait les femmes. Pour les terrifier alors qu'elles étaient encore en vie, leur ôter la vie et leur arracher des morceaux de corps pour les garder comme trophées sexuels, il les détestait forcément. Mais blesser les femmes l'excitait aussi sexuellement.
Brudos est un prédateur sexuel qui pourchassait toute femme qui croisait sa route, pour autant qu'elle portait des chaussures à talons. Il a perdu tout contrôle en laissant libre cours à ses envies dépravées, ce qui l'a poussé au crime. Tuer 4 jeunes femmes et découper leur corps de façon si atroce, avec pour seul motif de satisfaction personnelle, fait de Jerry Brudos l'un des pires criminels au monde.